Voilà. Donc on savait pas trop quoi faire, mais on a prévu de faire encore un petit enseignement. Là aussi, je vais être obligé de survoler, mais j'ai l'impression que le survol, ça vous plaît bien. Comme sur les aigles de l'aile, vous préférez ça au lire de tout près, qui a été inventé récemment, le close reading. J'ai pris comme exemple, parce qu'on a parlé du masculin et du féminin ce matin, comme des qualités qui viennent de Dieu, de la manière dont Dieu aime. Et j'ai pris comme exemple, de manière un peu provocatrice, un prophète célibataire et une veuve. Ça se passe au temps du prophète Élie, donc. Et donc dans le royaume d'Israël, au royaume du Nord, le prophète Élie, au début de ce chapitre 17, hein, dans lequel est ce texte, il apparaît, on ne sait pas qui il est, il débarque et il dit... il vient devant le roi, Achab, et il lui, Achab, des fois on dit Achab, bon, ou Achab, comme vous voulez, et il lui dit, vivant est le Seigneur, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura plus ces années qui viennent, ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Et avec Élie, toujours, c'est un peu subtil, parce qu'on ne sait pas très bien, et beaucoup d'exégètes, enfin un certain nombre d'exégètes disent, mais c'est d'une arrogance incroyable, comment peut-il dire à ma parole? Tous les prophètes disent toujours, c'est la parole du Seigneur, etc. Et certains même, comme mon ami André Wénin que je citais ce matin, pensent que c'est la parole de Dieu nous le présente d'une manière critique en fait. Parce que juste après, Dieu lui dit, bon, allez, va te cacher au torrent du Kérit. Et en fait, non, on voit tout au long de l'épisode que Dieu va accomplir la parole d'Élie. Jamais il va la remettre en cause, et au contraire, à la fin, même le torrent du Kérit va s'assécher. Dieu lui envoie des corbeaux pour le nourrir. Vous connaissez ce fameux épisode avec de la viande et du pain, etc. Donc, des corbeaux en temps de disette qui viennent apporter la nourriture, c'est un grand miracle. Donc, Dieu peut faire tous les miracles, mais il ne va pas toucher à l'eau parce que Élie, son prophète, a dit à ma parole seulement, reviendra la pluie ou la rosée. Il y a en arrière-fond tout un débat avec le culte du Baal, qui était le dieu de l'eau, de la pluie, du tonnerre, etc. J'espère que ce n'est pas Baal qui nous appelle quand même. Qui rouspète. Il arrive que le torrent du Kérit s'épuise et Dieu lui dit, bon, il n'y a plus d'eau, il faut que j'envoie mon prophète dans un endroit où il y a encore de l'eau. À l'ultime limite du pays de Canaan, d'après tous les textes non bibliques qu'on a du Proche-Orient ancien et biblique, Canaan s'arrête juste là à Sarepta, où on va aller maintenant avec le prophète. Donc à l'extrême nord du pays, la sécheresse commence à se faire sentir. Cette femme est cette veuve qu'il rencontre est d'une pauvreté absolue. Et Dieu lui a dit, j'ai demandé à une femme veuve de te nourrir là-bas. Et en fait, quand Élie arrive, la femme lui dit, mais il lui dit, donne-moi à boire, elle lui donne à boire. Après, elle lui dit, donne-moi à manger. Elle lui dit, vivant est le Seigneur ton Dieu, je n'ai plus rien qu'une poignée de farine. Je n'ai plus rien qu'une poignée de farine. Je ramasse quelques morceaux de bois, je vais la faire cuire, et nous mangerons mon fils et moi, elle a un fils, et après nous mourrons. Et Élie, qui est un bon prédicateur, dit, ouais, pas de problème, fais comme tu as dit. Et amène-moi la galette. Hein? Donc d'abord il lui dit bon vas-y tu veux y aller. Et donc il lui demande la dernière chose et on pourrait dire ah, c'est pas grand-chose qu'il lui demande. Mais en fait il lui demande tout. Il lui demande ce qui la sépare encore de la mort avec son fils. Tout ce qui les sépare encore de la mort. Vous savez quand on est dans cette situation-là, on raisonne pas du genre ouais mais de toute façon je vais mourir après. Non, ce qui reste pour vivre on le prend bien sûr. Hein. Et donc elle le lui donne cette poignée de farine qui est une poignée d'offrande en réalité. Et de fait le prophète Élie proclame que l'huile et la farine jamais ne s'arrêteront, ne cesseront dans la cruche et dans le pot chez cette veuve, et il y a une surabondance. Quelque temps plus tard, c'est le début de notre texte, il arriva après ces événements, je lis le texte, que fut malade le fils de la femme, maîtresse de maison, c'est le seul endroit où il est appelé maîtresse de maison, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de souffle, c'est-à-dire l'enfant, le jeune homme, ouais, préadolescent, quelque chose comme ça, meurt. Et elle dit à Eliyahu, alors je vais vous dire pourquoi j'ai mis Eliyahu. Eliyahu, c'est la forme hébraïque du prophète Élie. Ouais. Élie est une abréviation du grec Elias déjà. Donc Eliyahu, Eliyahu, c'est un mot important parce que ça veut dire, comme beaucoup de noms hébraïques, c'est une phrase. Ça veut dire Élie, mon Dieu.